Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce jeudi 1er juillet 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Merci de votre écoute. L'exercice naval de l'armée iranienne baptisé « Sécurité durable » a débuté mercredi 30 juin dans la mer Caspienne. 4 drones israéliens ont été abattus par les drones du Hezbollah libanais dans le ciel du pays. Au Burkina Faso, le couvre-feu a été prolongé de 2 mois dans l'est du pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et au Canada, 182 nouvelles tombes anonymes ont été découvertes près d'un pensionnat autochtone à Cranbrook, en Colombie-Britannique, ouest canadien. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. L'exercice naval de l'armée iranienne, baptisé Amniyat-e Paydar 1400, sécurité durable, a débuté le mercredi 30 juin dans la mer Caspienne. Porteur d'un message de paix et d'amitié, l'exercice naval sécurité durable a débuté mercredi matin dans la mer Caspienne. Y sont impliquées des unités de surface et aériennes de l'armée de terre, des lanceurs de missiles, des aéronefs à voilure fixe, des hélicoptères, des drones de surveillance maritime, des systèmes de guerre électronique ainsi que des unités de garde frontière de la marine nationale. Au cours de l'exercice, les fusiliers marins et les commandos de la marine de l'armée iranienne ont participé à des opérations de combat épaulées par les hélicoptères 212 et les navires lance-missiles. En plus, l'unité spéciale de la marine iranienne a mené des opérations de guérilla et de contre-guérilla, ainsi que des opérations d'infiltration sur la côte. Lors d'une autre phase de la manœuvre, les forces de la marine se sont exercées à tirer vers les cibles de surface et aériennes. De même, les drones iraniens Yassir et Ababil ont accompli une mission de reconnaissance en transmettant des données de navires à un centre de contrôle et de commandement. Les drones de moyenne portée de Yassir et d'Ababil, tous les deux fabriqués à l'intérieur de l'Iran, ont capturé des images de l'exercice sécurité durable 1400 avant de les transmettre en ligne à un centre de contrôle et de commandement. Les deux drones ont bien accompli une mission de reconnaissance de navires. Le drone Yassir a été fabriqué il y a une dizaine d'années en Iran sur la rétro-ingénierie du drone Scan Eagle, construit par les sociétés américaines Boeing et Institut, qui avait été fait descendre un an plus tôt par la DSA du corps des gardiens de la révolution islamique. Yassir est long d'un mètre et pèse une vingtaine de kilogrammes. L'appareil est en mesure de rester dans le ciel entre 7 et 10 heures et d'atteindre une altitude de 15 000 pieds et une portée de 200 km. Le drone Yassir est guidé par les stations de contrôle mobile qui sont basées sur le sol. Le drone commence son vol à l'aide d'une rampe de lancement et accomplit sa mission de reconnaissance grâce à ses caméras de pointe. Le poids léger, la grande vitesse et la considérable marge de manœuvre du drone Yassir lui permettent tous de réussir ses missiles de reconnaissance. Étant furtif, le drone Yassir est doté d'un mémoire intérieur et d'un système d'autopilotage. À noter que le drone Yassir fait également partie des opérations de la résistance en Irak, au Liban et en Syrie. Le commandant de la marine iranienne, le contre-amiral Hossein Khanzadi, a rencontré l'amiral Pierre Vantier, chef d'état-major de la marine française, le mercredi 30 juin, en marge de la conférence du symposium des marines de l'océan Indien qui a lieu sur l'île de la Réunion, département d'outre-mer français, dans le sud de l'océan Indien. Khanzadi a évoqué la situation géostratégique de l'Iran dans la région et a souligné que le golfe Persique et la mer d'Oman sont des zones sûres et stables et que malheureusement le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb ont été insécurisés pour diverses raisons. Le contre-amiral Khanzadi a ajouté que les forces navales de la République islamique d'Iran surveillent de manière permanente les mouvements des navires de guerre des États-Unis et des pays de l'Union européenne dans la région. Nous ne comprenons pas la raison de la présence des forces militaires extra-régionales dans le golfe Persique et nous exigeons que les navires de combat des États-Unis et des pays de l'Union européenne quittent les zones proches du littoral iranien, a déclaré le contre-amiral Khanzadi lors de sa rencontre avec le chef d'état-major de la marine française. De son côté, l'amiral Pierre Vantier a remercié l'Iran pour ses efforts pendant les 3 années de sa présidence à la tête du symposium des marines de l'océan Indien et ses réussites en dépit des problèmes liés à la pandémie de coronavirus. L'amiral Pierre Vantier a déclaré « Sous la présidence de Donald Trump aux États-Unis, les forces armées américaines ont appelé leurs partenaires à accentuer leur présence dans la région » pour augmenter les pressions sur la République islamique d'Iran, mais la marine française a gardé sa distance, tout en respectant ses obligations relatives à ses missions de sécurité dans le golfe Persique. Nous n'avons cependant participé à aucune opération des forces américaines dans la région. Il a ajouté que la marine française essaie, en coordination avec le ministère français des Affaires étrangères, de contribuer à la baisse des tensions au Yémen et dans le golfe Persique. Il a déclaré qu'il communiquerait le message du commandant de la marine de la République islamique d'Iran à sa hiérarchie et au gouvernement français. La France accueille la 7e édition du symposium des marines de l'océan Indien du 28 juin au 1er juillet 2021 sur l'île de la Réunion. Les échanges sont axés autour des 3 thématiques de travail du symposium: sécurité maritime, interopérabilité et partage de l'information maritime, assistance aux populations frappées par une catastrophe naturelle. Le symposium des marines de l'océan Indien a été créé en 2008 dans le but de promouvoir la coopération entre les marines militaires des États riverains de l'océan Indien et de consolider une approche commune des défis et des réponses liées aux enjeux de la zone. Ce rendez-vous est le forum d'échange privilégié entre ces nations au nombre de 25, auquel s'ajoutent 8 États observateurs et 8 États invités par la France lors de cette édition. La République islamique d'Iran a assuré la présidence du symposium de 2018 à 2021 et remet la présidence à la France au cours de la conférence de la Réunion. Le Hezbollah abat 4 drones israéliens dans le ciel libanais. Des sources médiatiques rapportent que les combattants du Hezbollah ont détruit 4 drones de l'armée israélienne survolant le Liban. Ce jeudi 1er juillet à l'aube, certaines sources arabes ont fait part du vol de plusieurs drones appartenant à l'armée israélienne dans le ciel du Liban. Les combattants du Hezbollah ont pris pour cible des drones israéliens depuis Beyrouth, a déclaré la chaîne Telegram Sabarin News, citant des sources proches du mouvement de la résistance islamique du Liban dans un communiqué de dernière minute. Des sources affiliées au Hezbollah ont précisé que le mouvement de la résistance libanaise avait intercepté 4 drones israéliens volant de la mer vers le quartier Mahdi dans la banlieue sud de la capitale libanaise avant de les abattre. Plus de détails n'ont été divulgués de l'incident. La force de maintien de la paix de l'ONU basée au Liban a récemment déclaré qu'Israël avait violé à plusieurs reprises l'espace aérien libanais en ignorant les résolutions des Nations Unies. Environ 95% de ces violations de l'espace aérien ont été commises par des drones. Des violations fréquentes et illégales de l'espace aérien libanais par les aéronefs israéliens se produisent à un moment où l'armée israélienne a récemment déclaré des zones le long de la frontière entre les territoires occupés et le sud du Liban comme zones militaires non-fly. La loi historique sur le climat de l'Union européenne est entrée en vigueur mercredi 30 juin, après que le ministre portugais de l'Environnement et de l'Action pour le climat avait signé le texte. La cérémonie de signature a coïncidé avec la fin de la présidence semestrielle portugaise du Conseil de l'Union européenne. La Slovénie prendra le relais à partir de jeudi. La loi sur le climat, adopté lundi par les États membres de l'Union européenne, rend juridiquement contraignant l'objectif ambitieux du bloc de devenir climatiquement neutre d'ici 2050. Cela nécessite également une réduction des émissions nettes d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. La présidente de la Commission européenne a salué cette étape importante. Le gouverneur de la région de l'Est du Burkina Faso, le colonel Saïdou Tepesanou, a annoncé mercredi dans un communiqué la prorogation du couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pour une durée de 60 jours, allant du jeudi 1er juillet au dimanche 29 août 2021 inclus. Le gouverneur invite l'ensemble de la population à respecter strictement cette mesure. Le Burkina Faso est en proie aux attaques terroristes depuis 2015. Les autorités du pays déploient des efforts pour lutter contre le terrorisme alors que les violences se multiplient sur le terrain, rappellent des observateurs locaux. Le 25 juin dernier, l'Assemblée nationale a voté la prolongation pour 12 mois de l'état d'urgence en vigueur dans 14 des 45 provinces du pays qui font l'objet d'attaques terroristes. Pas moins de 182 tombes non identifiées ont été découvertes près d'un ancien pensionnat pour enfants autochtones à Cranbrook, en Colombie-Britannique. Ouest canadien a annoncé la Première Nation de Lover Kootenay. Les tombes ont été localisées après une recherche effectuée en 2020 à l'aide de géoradars au sud de l'ancien pensionnat Saint-Eugène Mission, a précisé la communauté de Lover Kootenay dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux. Le pensionnat Saint-Eugène Mission était en fonction durant la période entre 1910 et 1970, a-t-on ajouté. Cette macabre découverte, qui intervient à la veille du 150e anniversaire de la Fédération canadienne, 1er juillet, fait suite aux récentes découvertes de 751 tombes en Saskatchewan et de 215 à Kamloops, en Colombie-Britannique. Je demande à tous les Canadiens de se tenir aux côtés des Premières Nations pour exiger justice, a déclaré le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde. Les chefs de la nation Innu ont émis mercredi une déclaration en réaction aux récentes découvertes. Le temps n'est plus aux excuses ou à la consternation. Nous sommes devant une situation extrêmement grave qui demande beaucoup plus que des simples paroles ou des dollars. Il faut des gestes forts de la part du gouvernement pour soulager la douleur des familles qui souffrent encore, ont-ils affirmé. Le système des pensionnats autochtones a été créé aux années 1880 par l'Église catholique et le gouvernement fédéral qui l'ont exploité pendant plus d'un siècle. Durant cette période, 150 000 enfants autochtones ont été placés de force dans 139 pensionnats à travers le Canada où ils ont été coupés de leur famille et de leur culture. En 2015, une commission nationale d'enquête a qualifié ce système de génocide culturel. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Afghanistan, l'aval US à la guerre civile. Le plus haut commandant militaire américain en Afghanistan a déclaré que la sécurité dans tout le pays se détériorait quelques semaines seulement avant le retrait des dernières forces américaines. On l'aura compris. Le général confirme la mise sur planche de tous ingrédients nécessaires à la guerre civile inter-afghane, de façon à ce qu'à peine partie ou faisant semblant de partir, l'Amérique se fasse prier par les Afghans eux-mêmes pour un retour. D'ailleurs, ce vrai faux retrait US n'a pas trop éloigné les Yankees de l'Afghanistan. Ils rôdent tout autour et aimeraient même, si Islamabad finit par obtenir le feu vert chinois, avoir une base au Pakistan. Mais c'est aller peut-être trop vite à la besogne que de croire les talibans être totalement acquis à la cause US et se sentir définitivement engagés par les promesses en coulisses des Américains lors des pourparlers à Doha. Les talibans partagent des milliers de kilomètres avec trois puissants voisins, l'Iran, la Chine et la Russie, tous trois décidés à mettre les États-Unis à la porte de la région. Le scénario d'une guerre civile signée US s'est tourné contre les États-Unis en Irak et il en sera autant en Afghanistan. Le général Scott Miller, dans un rare briefing mardi, a déclaré que les récents gains des talibans sont très préoccupants, même s'ils ne sont pas inattendus. La situation sécuritaire n'est pas bonne en ce moment, a-t-il déclaré à un petit groupe de journalistes au siège de la coalition qui se vide rapidement à Kaboul. La guerre civile est certainement une perspective. Cela devrait être une préoccupation pour le monde. Je pense que ce que vous voyez juste en matière de sécurité, ce n'est pas bon, a déclaré Miller à Martha Raddatz d'ABC à Kaboul dans une interview publiée lundi. Miller a déclaré alors même que les talibans sont en pourparlers avec le gouvernement afghan au sujet d'un règlement politique du conflit qui dure depuis des décennies. « Vous avez une offensive en cours à travers le pays par les talibans. » Il a déclaré que le gouvernement afghan comprend la gravité du problème et s'apprête maintenant à consolider les forces de sécurité pour maintenir la capacité de résister aux talibans à des moments clés plutôt que d'essayer de défendre des poches de territoires isolés. Au cours des dernières semaines, près d'un quart de districts afghans sont tombés aux mains des talibans, dont les activités ont pris de l'ampleur après l'annonce par le président Biden en avril du retrait des troupes américaines d'ici le 11 septembre. Le général Miller a également précisé que l'accord qatari stipule que les troupes américaines peuvent soutenir les forces afghanes et les défendre si nécessaire. Selon la société de presse, le commandant des troupes américaines et de l'OTAN en Afghanistan a ajouté qu'il y a plusieurs raisons à la chute successive des villes, notamment l'épuisement des forces et leur reddition, l'échec psychologique et militaire. Le général Miller a refusé de dire quand exactement le départ des forces américaines serait terminé, invoquant des raisons de sécurité opérationnelle. L'armée américaine a déjà retiré plus de la moitié de son équipement et de son personnel et devrait achever le retrait d'ici la mi-juillet, comme l'ont déclaré les responsables américains.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Les États-Unis ont frappé il y a quelques jours les positions de la résistance irakienne en territoire des Syriens et également à l'intérieur du territoire irakien. En fait, l'aviation américaine a bombardé les positions militaires de la résistance irakienne, des éléments de la résistance irakienne, dont la mission consistait à combattre le groupe terroriste Daesh, dont la mission consistait à empêcher l'infiltration des terroristes du territoire syrien vers le territoire irakien. La réaction du côté de la résistance est ferme. Un important dirigeant des Hashd al-Shaabi, des unités de la mobilisation populaire, cette importante composante de la résistance irakienne qui fait partie également, rappelons-le, de l'armée irakienne, de Qais Khazali, a affirmé dans un discours télévisé: nous ne sommes pas des amateurs de sang ni des seigneurs de guerre. Les opérations de la résistance veillent à ne pas verser de sang. Notre tactique consistait à épuiser les capacités militaires de l'ennemi pour le forcer à se retirer. Mais l'ennemi américain a prouvé qu'il sous-estime le sang de notre peuple, a-t-il expliqué également. Et d'ajouter, c'est l'ennemi américain qui a commencé à tuer et de déplacer la bataille à ce niveau. Et dans ce contexte, la résistance irakienne dit que voilà, le combat contre l'occupation américaine est entré dans une nouvelle phase. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux spécialistes des questions internationales. J'ai avec moi pour cette émission Maître Arnaud Devollet, juriste français spécialiste des questions internationales depuis Damas. Maître Devollet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Devollet, qui est en ligne avec nous depuis Toulouse, c'est M. Pierre Dortillier, philosophe français spécialiste des questions internationales. M. Dortillier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Neurostine, bonjour à tous les auditeurs et à Maître Devollet.
Monsieur Dortillier, on va commencer avec vous notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet, votre analyse s'il vous plaît.
Eh bien, vous avez dans votre exposition, Monsieur Neurostine, justement souligné que cette fraction de la résistance irakienne appartient à l'armée irakienne, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un groupe privé, enfin, c'est un groupe patriote, mais en même temps, disons, un groupe qui appartient à la défense générale du pays contre toute agression. Que ces agressions soient celles des anciens ou des perpétuels occupants de l'Irak, ou qu'elles soient aussi celles de ces groupes de Daesh qui se sont infiltrés, vous savez, depuis longtemps en Irak, et disons, mènent en Syrie comme en Irak, évidemment, un combat qu'elles ne peuvent mener, ces bandes-là, que parce qu'elles sont soutenues matériellement, financièrement, humainement, si je puis dire, par recrutement, par des puissances, par des forces qui sont en Occident. Ce ne sont pas des forces internes, ce sont des forces qui les animent. Ce sont des forces extérieures. Je rappelle, vous savez, un jeune auditeur, ce que disait M. Fabius autrefois à propos du groupe Al-Nosra, dans un discours de Marrakech, que ce groupe qui était terroriste faisait du bon travail. Il avait dit même un argot français, du bon boulot. Voilà exactement, disons, comment il faut situer les choses. Alors, la signification de cette opération américaine, bien sûr, est de maintenir, disons, des braises, si je puis dire, un feu d'hostilité contre, bien sûr, le gouvernement syrien, bien sûr, en premier, contre le gouvernement irakien et naturellement contre l'Iran. Je crois que c'est ainsi que ça a été présenté, en tout cas, par les médias occidentaux, vous voyez. Et je crains malheureusement que cette attaque par des drones, tout cela, de patriotes irakiens, ne soit, disons, une sorte de, je répète, de feu couvé, vous voyez, pour pouvoir justement préparer l'opinion à une possible intervention plus importante, disons, des États-Unis, cette région, c'est-à-dire qu'ils contredisent entièrement ce qui avait été annoncé à l'époque de Trump, vous voyez, à savoir d'un dégagement progressif, vous voyez, des troupes en Irak, etc. Alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'on prépare l'opinion publique, bien sûr, américaine, à des interventions, à présence indéfinie en Irak, et aussi, bien sûr, on augmente par là même, en même temps, disons, l'hostilité contre l'Iran. Évidemment, le fond de l'affaire est que le gouvernement légitime, bien sûr, je parle maintenant de la Syrie, et montrer du doigt. On ne tient aucun compte, disons, je dirais, de la double légitimité du gouvernement irakien et de son autorité, et du gouvernement syrien de son autorité. Ça ne s'est jamais vu, enfin, disons, c'est vraiment difficile de concevoir, disons, que l'on puisse ainsi agir pour défendre des groupes qui sont des groupes terroristes, les défendre contre des autorités légales, voyez-vous, locales. Ça va à l'encontre même, je dirais, du principe de civilisation.
Et Maître Develé, en fait, suite à cette frappe américaine contre les positions militaires de la résistance irakienne, une base abritant les forces militaires américaines, les forces d'occupation américaines en territoire irakien a été visée par des missiles, a en jugé par des informations. Cette frappe au missile a infligé d'importants dégâts et également des pertes en vie humaine, surtout des blessés côté américain. Pensez-vous que tout cela indique que la résistance irakienne, la résistance, si vous voulez, dans son propre sens, que ce soit en Irak ou en Syrie, est bien résolue, bien déterminée, si vous voulez, à se venger, à riposter, si vous voulez, aux frappes américaines, du tac au tac, Maître Develé.
Oui, absolument. C'est d'ailleurs plus flagrant que très récemment à Washington, s'est tenue une rencontre au sommet entre les hauts militaires du Pentagone concernant justement les capacités balistiques et drones de la résistance. Donc, il ne faut pas s'y tromper. La résistance de facto, et c'est cela en dépit de la narrative qui nous est imposée depuis plusieurs années, à savoir que les Américains sont dans la région pour combattre Daesh, là, les Américains maintenant ne font plus, si je peux dire, illusion, ils déclarent plus ou moins de manière implicite que la résistance au sens large, que ce soit la résistance irakienne ou la résistance syrienne, sont devenus de facto leurs objectifs militaires. Et en cela, cette opération, cette attaque-là, qui, rappelons-le pour le spectateur, s'est tenue dans la région autrement cruciale de Abu Kamal et Mayadin, qui représentent un point de passage entre l'Irak et la Syrie, un point de passage qui leur permet de contrôler justement les frontières et d'éviter la porosité qui a permis aux groupes terroristes pendant des années d'aller et venir entre les deux pays, a été la cible. Et donc, il ne faut pas se tromper, cette attaque avait deux objectifs. Le premier, c'était effectivement de s'attaquer au contrôle de la résistance de la frontière des autres frontalières entre les deux pays, sur le plan tactique, et sur le plan stratégique, de forcer la résistance à agir, bien sûr, à se défendre, et ce faisant, effectivement, à paver la route pour convaincre une opinion publique américaine, il faut le dire, assez ignorante des affaires régionales, qu'en fait, les États-Unis, on ne faisait que, ce sont les mots qu'ils ont utilisés, se défendre. Tout ça participe, si je puis dire, d'un retour aux affaires des néoconservateurs. On a pu voir dans le cadre des négociations sur le retour des États-Unis dans l'accord sur le nucléaire que les Israéliens tiennent la main, qu'ils tiennent le manche dans ce contexte précis, et que en toile de fond, si je puis dire, l'objectif américain est d'empêcher justement toutes les forces de la résistance qui représentent vraiment le désir de souveraineté et d'indépendance politique dans la région, contrôler et prendre en main, si je puis dire, la destinée des pays respectifs de la région. Et donc, cela passe par l'expulsion des forces américaines.
Monsieur Tortillet, lorsque vous étiez en train, en fait, de nous faire votre analyse sur ce qui se passe actuellement en Irak et en Syrie, avec cette de poursuite d'agression américaine et cette riposte du côté de la résistance. Et lorsque M. De Vollet également était en train de nous faire, si vous voulez, nous livrer son analyse, nos amis à la régie ont diffusé surtout des images de cette importante parade militaire de la résistance irakienne qui a eu lieu à Bagdad, de capitale, défilé militaire auquel a participé également le Premier ministre irakien Mustafa Kazemi. Monsieur De Vollet vient de le dire, voilà, il y a eu tout récemment cette réunion au sommet aux États-Unis pour examiner les capacités de drones de la résistance irakienne, mais ces capacités ne se limitent pas, si vous voulez, au drone. Et les images, si vous voulez, diffusées de cette importante parade militaire de la résistance irakienne parlent d'elles-mêmes. Monsieur Dortiguet, la résistance a, si vous voulez, militairement, de quoi à sa disposition pour se défendre et pour, en fait, riposter aux menaces américaines, n'est-ce pas?
Oui, en effet, c'est ce que certainement les Américains ont voulu tester. Si on s'en tient à un plan réaliste, ils ont donc là la réponse à ce qu'ils cherchaient. Mais en même temps, comme Maître De Vollet l'a dit, il y a là une sorte de mobilisation aux États-Unis des groupes néoconservateurs qui relèvent la tête, ou tout au moins parlent plus fort qu'avant, et veulent déplacer ouvertement l'adversaire. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a fait croire au peuple américain qu'il s'agissait de lutter contre le terrorisme, bien sûr, en Syrie, même si Bachar el-Assad était considéré comme un être qui était pas bon, etc. Enfin, mais on mettait quand même en évidence, disons, le terrorisme, qu'on ne peut pas cacher, le terrorisme de Daesh et autres. Et là, il semble qu'il y ait une sorte de glissement vers une sorte d'hostilité, alors ouvertement déclarée, contre la résistance elle-même. C'est insensible, mais ça ne se fait pas comme ça ouvertement du jour au lendemain, mais il y a une préparation de l'opinion. Et bien naturellement, l'opinion américaine, vous savez, voit les choses à cause de la distance de façon très confuse. Voyez, et on ne lui explique pas le fond des choses. C'est un peu aussi ce qui se passe dans beaucoup de domaines en Europe, mais en France même, voyez. Et je crois que cette manifestation dont vous parlez, que la régie a diffusée, d'unité, disons, nationale de la défense irakienne, est quand même, disons, la véritable riposte, disons, à ce qu'on peut appeler, en effet, un test américain. De ce côté-là, s'il y a test, bien sûr, il y a une signification de ce test. Mais quelle est, je voudrais le dire, quelle est finalement l'autre pensée, la pensée suivante américaine, quelle est cette stratégie à long terme ou à court terme que la nouvelle administration, par exemple, a pu, en liaison avec celle de M. Bennett, qui a succédé à M. Netanyahou, produire. Il ne faut pas oublier que ces groupes néoconservateurs sont des groupes qui pratiquent la politique gauchiste, d'ailleurs, hein, la politique trotskiste, parce que beaucoup sont de formation trotskiste, de la guerre permanente, de l'attaque permanente, voyez-vous, du harcèlement. Et je crois que nous avons, pour reprendre le sens de l'offensive américaine, enfin, du coup monté américain, nous avons affaire justement à une tactique de harcèlement de la résistance et de l'État irakien également, voyez-vous. Et est-ce que cela prépare quelque chose de plus important? Nous le croyons, bien sûr. Il est certain qu'on ne peut s'attendre qu'à une prolongation, un prolongement, disons, et un développement progressif, bien sûr, de cette hostilité américaine qui, je le dis, mettra en évidence, voyez-vous, le danger de l'Iran, le danger de l'axe de la résistance, etc. Et avec une opinion qui est elle-même en Occident endormie, voyez-vous, qui n'est pas du tout au courant de la nature du terrain.
Et Maître De Vollet, je viens de le dire tout à l'heure, en fait, au début de notre émission, et ce responsable, c'est important quand même, responsable de la résistance irakienne, dit que la résistance est entrée dans une nouvelle phase de son combat, de sa bataille face à l'occupation américaine. Qu'entend-il, d'après vous, par cette nouvelle phase, si vous voulez, de combat, maître de volée?
Là, écoutez, je pense qu'il a parfaitement intégré l'évolution, si je puis dire, du narratif, à savoir qu'ils sont maintenant la résistance, eux-mêmes, la cible des néoconservateurs. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Bortiguier lorsqu'il dit que les néoconservateurs sont les anciens trotskistes. Enfin, ils ont une formation trotskiste et qui vise fondamentalement à harceler, créer le chaos permanent et créer la guerre permanente. Parce que de toute façon, l'objectif de ces gens-là, c'est, si je puis dire, une situation qui ne permet pas l'émergence politique d'une ligne souveraine dans les pays qui sont divisés. Il faut absolument, et en cela, ça rejoint le plan Yinon, de 1982, qui est un plan qui avait été mis en avant par Raoul Péver ukrainien, de créer une situation de chaos chronique qui permettrait, sur la durée, l'émergence de micro-entités qui soient faciles à contrôler, de peu qu'on arrive à appuyer tantôt sur des points confessionnels et tantôt sur des points ethniques. Donc cela participe parfaitement à cette ensemble, cette grande vision, entre guillemets, pour la région. Et en cela, l'état profond, l'appareil américain qui est infiltré de A à Z par les néoconservateurs, même dans le parti politique au pouvoir aux États-Unis, continue cette démarche. Et maintenant, il ne fait aucun doute que il va falloir pour eux faire monter la pression. Les conservateurs ne se remettent jamais en question. Quand on leur dit que leur politique a échoué, qu'en fait, si elle a échoué, c'est parce que l'implication des forces n'était pas assez approfondie. Donc, ce qui leur faut maintenant, c'est un casus belli et pouvoir pointer du doigt une espèce de golem qui menacerait la sécurité américaine et les troupes américaines, de façon à convaincre l'opinion publique aux États-Unis que les forces armées sont menacées par des groupes, je cite, selon leur sémantique, affiliés et soutenus par l'Iran, de façon petit à petit amener l'opinion publique à considérer l'Iran comme une menace existentielle pour la sécurité des États-Unis d'Amérique. Ça paraît absolument délirant quand on connaît la région, la réalité sur le terrain, mais cette technique, cette narrative s'applique parfaitement par rapport à l'opinion publique américaine. Et on peut imaginer que l'escalade qui va forcément s'en suivre visera aussi de manière assez pratique à remporter les élections prévues pour le mois d'octobre en Irak, qui auraient vu certainement le parti de la résistance gagner en siège et à asseoir encore plus au travers des institutions sa légitimité politique eu égard à la plateforme qui consiste à dire aux Américains de quitter le pays. En remportant ces élections tunisiennes, on peut imaginer que les Américains veulent continuer à s'appuyer sur certains éléments au sein des institutions irakiennes qui, pour l'instant, semblent avoir été pour le moins ambivalents quant à leur positionnement.
Monsieur Dortiguet, il y a eu cette attaque, cette riposte de la de résistance, cette attaque contre cette base américaine en territoire irakien. Pensez-vous que, en fait, la résistance va multiplier, suite surtout à cette réaction du côté de la résistance, va multiplier, si vous voulez, ces attaques contre les forces américaines, que ce soit en Irak ou en Syrie?
Naturellement, on peut supposer que la résistance continuera ses attaques, et naturellement, avec certainement une prudence. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie quand même à adopter vis-à-vis de l'entreprise américaine. Car cette entreprise américaine a intérêt à ce qu'il y ait, non pas bien sûr un front puissant contre elle, mais à ce que, disons, elle s'attend à subir des sortes de guérillas, de ripostes. Et ces ripostes, à notre avis, doivent tenir compte de cette stratégie américaine, de ne pas tomber dans un piège, si vous voulez. Et le meilleur moyen, pour le dire clairement, de ne pas tomber dans le piège, c'est de montrer une solidarité entre tous les milieux de la résistance, et en particulier à l'intérieur de l'Irak, de faire justement, de tenir compte qu'il y a aussi, à Maître Develay vient de dire, mais ceci est connu bien sûr des observateurs, de nombreux observateurs, qu'il y a à l'intérieur de l'Irak des groupes, n'est-ce pas, qui sont influencés par les États-Unis, qui jouent un jeu, disons, qui n'est pas très net, enfin très net pour l'opinion, mais disons qu'on sait très bien qu'ils sont, comment vous dire, qu'ils ont un pied dans les deux camps, et qu'ils sont corruptibles, si vous voulez. Il faut que je le dise ouvertement. Et alors, il faut naturellement que ces éléments-là soient neutralisés, et qu'il y ait surtout la meilleure manière, à notre avis, de réagir, n'est pas de faire un bombardement ici ou là, c'est de montrer qu'il y a une unité ouverte de la résistance dans la région. Voyez, et que ceci puisse impressionner quand même, disons, l'opinion publique, ou tout au moins empêcher, disons, la propagande conservatrice, néoconservatrice américaine, de parler d'agression et de ne pas, de la part des Irakiens ou des Iraniens ou des Syriens, et à parler d'agression, oui, mais disons, on ne peut pas dire qu'un peuple uni est un peuple agressif.
Merci.
Et je crois que là, il y a une stratégie habile de la part de la résistance qui, disons, doit s'affirmer, mais sans tomber dans les pièges américains. À notre avis, c'est un jeu, je ne dis pas stupide, mais un jeu difficile, vous voyez, et les Américains, plutôt au moins les néoconservateurs, les équipes israéliennes et autres, veulent, disons, par une sorte, entre guillemets, de guérilla de leur part, disons, pousser, justement, à des actions irréfléchies, et ils n'attendent que le feu vert, disons, pour une intervention beaucoup plus large, beaucoup plus grande, vous voyez.
Merci.
Et je ne dis pas qu'elle est fatale, mais elle est quand même dans les plans de ces gens qui sont, dès le départ, il faut le dire, des fanatiques.
Merci.
Les trotskistes, comme l'était, voilà.
Merci beaucoup, M. Pierre Dortillier, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse.
Merci.
Mes vifs remerciements vont également à Maître Arnaud Develay, qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
L'idéologie est la pratique des courants takfiristes. Quatre soldats nigérians ont été tués dans une attaque des terroristes takfiristes. Ces quatre soldats nigérians ont été tués dans l'attaque de leur base par des terroristes dans le nord-est du Nigeria, près de la frontière avec le Cameroun, a-t-on appris de sources militaires. Des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, à bord de camions équipés de mitrailleuses, ont tenté de prendre d'assaut cette base située à Banki, dans l'État de Borno, l'épicentre de l'insurrection takfiriste. Nous avons perdu 4 hommes au cours d'une bataille acharnée qui a duré plus d'une heure, a dit à l'agence France-Presse un officier de l'armée qui a requis l'anonymat. L'intervention d'unités aériennes a été nécessaire pour repousser l'attaque au cours de laquelle 20 terroristes ont été neutralisés, a-t-il ajouté. Un autre militaire a confirmé l'attaque et a donné un bilan similaire, précisant qu'une dizaine de fusils avaient été récupérés. Banki, à 130 km au sud-est de la capitale de l'État de Borno, Maïdagouri, abrite notamment plus de 45 000 personnes déplacées par les violences. L'insurrection takfiriste dans le pays le plus peuplé de l'Afrique a débuté en 2009 avec les attaques du groupe Boko Haram, puis de l'ISWAP, issue d'une scission de Boko Haram, qui est devenu le groupe armé dominant dans la région. Boko Haram a confirmé mi-juin la mort de son dirigeant historique, Aboubakar Shekou, dans des combats contre l'ISWAP. Ce conflit au Nigeria a fait plus de 36 000 morts et 2 millions de personnes ont été déplacées. Et il s'est étendu au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré lundi que 10 000 terroristes de l'organisation Daesh étaient toujours détenus dans des camps gérés par les forces démocratiques syriennes FDS, majoritairement constituées de miliciens kurdes alliés des États-Unis, et que cette situation était intenable. S'exprimant à l'ouverture d'une réunion à Rome visant à renouveler les efforts internationaux pour combattre Daesh, Anthony Blinken a ajouté que Washington continuait d'exhorter les pays, y compris les 78 pays membres de la coalition internationale, à récupérer leurs citoyens qui ont rejoint le groupe. Cette situation est tout simplement intenable. Elle ne peut pas persister indéfiniment. Les États-Unis continuent d'exhorter les pays d'origine, y compris les partenaires de la coalition, à rapatrier, réhabiliter et, le cas échéant, poursuivre en justice leurs citoyens, a déclaré Anthony Blinken dans son discours d'ouverture. Un autre élément clé pour vaincre le groupe Daesh de façon permanente est de faire face aux menaces du groupe en dehors de l'Irak et de la Syrie, notamment en Afrique, a ajouté le secrétaire d'État américain. À l'origine, une ramification d'Al-Qaïda, le groupe armé Daesh s'est emparé de larges pans de l'Irak et de la Syrie en 2014, imposant un règne de terreur avec des décapitations publiques et des attaques menées par des partisans à l'étranger. Le groupe a été déclaré vaincu militairement en 2017, mais a depuis lancé des opérations de guérilla dans certaines parties du nord de l'Irak et à la frontière avec la Syrie voisine. Ces derniers mois ont été marqués par plus de 25 attaques meurtrières que les responsables irakiens attribuent aux terroristes de Daesh. En janvier, un attentat à la bombe contre un marché bondé de Bagdad a tué plus de 30 personnes. Les groupes terroristes liés à Al-Qaïda et à Daesh se sont également renforcés ces dernières années, malgré le déploiement de milliers de troupes régionales, occidentales et de l'ONU dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest. Et enfin, une attaque perpétrée ce dimanche 27 juin par des terroristes Shebab dans le centre de la Somalie a fait au moins 30 morts. L'attaque visait un camp militaire dans la région semi-autonome de Galmudug, dans le centre du pays. Les rebelles ont lancé l'assaut contre la base de Visil à l'aide de deux voitures bourrées d'explosifs et affronté pendant une heure environ les troupes gouvernementales et des milices locales, a déclaré le commandant Mohamed Awale, un officier basé dans la région. 30 personnes, 17 militaires et 13 civils, ont été tués dans les combats, a-t-il ajouté. Le gouvernement somalien a de son côté annoncé la mort des 41 activistes Shebab impliqués dans le raid, dans un communiqué diffusé sur le site internet de l'agence de presse officielle Sona.